Alexandra.
L'ami.
C'était super, j'ai bien aimé, j'ai été touchée, pour le coup j'ai pleuré à plusieurs reprises.
Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé du film d'Alexandre Lamy qui ne sortait que ce soir à 19h, oui. Donc c'était impossible pour nous d'en parler, c'est un premier, peut-être qu'on en parlera le vendredi prochain. Mais sinon tu as aimé ça, touchée?
J'ai vraiment aimé, et comme beaucoup de personnes dans la salle, on a tous, tous été touchés, il y avait beaucoup de personnes en pleurs, et effectivement elle a
ça parle de situations d'agression des femmes,
des femmes qui se retrouvent dans un cours d'escrime thérapeutique après avoir subi d'une manière ou d'une autre
des violences sexuelles ou non,
C'était vraiment, et puis il faut noter vraiment l'engagement d'Alexandra Lamy, qui a vraiment, c'est pas seulement une actrice, c'est une femme engagée dans la lutte.
Ça repassera?
Non, malheureusement.
Touché? Non, non. Bon, dommage. Il est 20h, vous écoutez RCI, évidemment. Dans un instant, vous allez retrouver Christian Boutrin, qui a plein de choses à vous dire concernant le sport. Merci à tous, on se retrouve vendredi prochain. Merci Olivier, bye bye.
RCI, partout en Martinique. 98.7, 91.2, 104.6 et 103 FM. Chaque heure, chaque minute, suivez en direct les meilleures actions. RCI, c'est fort de sport.
Bonsoir, et comme chaque vendredi soir de 20h ce soir jusqu'à 23h, nous irons avec nos différents rendez-vous. Nous remercions Jojo-Claude et son équipe Ciné-FM pour ces différents rendez-vous. Pour aller vous détendre, l'émission spéciale en la mémoire ce soir de Camille Paviot, l'emblématique président du club franciscain qui nous a quittés dans un hôpital parisien des suites d'une longue maladie ce matin à l'âge de 79 ans. Et à cette occasion, nous vous proposons au cours de notre multiplex une série de témoignages de son vice-président Gaëtan Bascou, encore de joueurs et d'entraîneurs. Et en mémoire de la personnalité de l'ancien président du club franciscain, à son œuvre particulièrement dans le développement et le rayonnement du football martiniquais, de l'Hexagone et bien sûr de la Caraïbe. Au travers des résultats de son club, la Ligue de football de Martinique lui rend hommage. Lors de ses rencontres ce week-end, une minute effectivement de silence sera observée avant le début des rencontres. Et dans le même temps, ce soir, nous avons rendez-vous avec plusieurs disciplines. La finale aller de la poule des As de handball, nous retrouverons Richard Aigoui pour cette première soirée de gala au Palais des Sports du Lamantin. Toujours dans le cadre des playoffs, mais en volleyball, c'est Dominique Deval qui sera au Palais des Sports de Rivière-Salée et nous fera vivre le derby arlésien des matchs au retour entre le Rayon de Petit-Anse et le RCA au féminin et au masculin. Dominique Deval sera accompagné ce soir de Jean-Philippe Maire. Sans oublier le tournoi anti-Guyane de basket en Guadeloupe au gymnase Valère Lamy. Le Golden Star peut être sacré champion en Guimaragua chez les hommes dès ce soir en cas de victoire contre le Cosma de la Guyane après la victoire hier soir face à l'EDO. Chez les femmes, on rappelle que l'Éclair affronte en ce moment l'équipe de Sinamari de la Guyane pour son deuxième match après sa défaite hier soir contre la MJCA. C'est Olivier Lecuy et la Ferronnier qui est aux commandes ce soir.
Studio Sport sur RCI, Christian Boutrin.
Allez, on prend la direction du stade Henri Murano à Saint-Joseph pour le match de R1. Quel match, Guy Albert Emily, entre le club franciscain et le Golden Lion. Je dis le club franciscain parce que la mémoire, bien sûr, du président Paviot plane sur le stade ce soir. Bonsoir, Guy Albert.
Oui, bonsoir, Christian. Bonsoir à tous. On parle pas trop fort parce qu'on a commencé la minute de silence. Vous le savez, la Ligue a demandé sur tous les stades d'ailleurs ce week-end qu'il y ait une minute de silence pour l'emblématique président. 39 titres pour cette équipe du club franciscain avec le président Camille Paviot qui donc a marqué l'histoire de ce football en Martinique. Et pour l'instant, on en est, si vous n'entendez pas du bruit, si vous n'entendez pas les supporters, c'est parce qu'il y a la minute de silence pour ce grand monsieur. Et puis, on va se rapprocher tout à l'heure quand la minute sera, on se rapprochera de Dominique Zahir, vous le savez, les deux, voilà, qui est fait pour la minute, de l'applaudissement pour, à la mémoire donc de Camille Pavio. Et donc je disais, Dominique Zahir, qui, comme l'autre entraîneur, il s'agit de Fabrice Repernet, également, donc ont été pour, ont connu Camille Pavio et ont joué avec cet emblématique président. Dominique, bonsoir, c'est vrai que ouais, c'est une page d'histoire qui s'en va avec Camille Pavio et vous en avez fait partie dans cette équipe du club franciscain.
Oui, tout à fait. J'ai commencé ma période au club franciscain, Camille Pavio, qui m'a fait venir. Et je pense que c'est un président qui a marqué le football martiniquais, le football franciscain aussi. Donc, c'est vraiment avec tristesse qu'on a appris cette nouvelle ce matin. Mais ça n'empêche que c'est un président que je pense que la victoire ce soir va lui faire plaisir. Parce que là où il était, il avait le 20e titre de champion du club franciscain. Donc, on va essayer de tout mettre en œuvre pour essayer d'organiser ce match ce soir pour nous rapprocher plus un peu du titre de champion.
Dites-moi, c'était plus qu'un président pour vous. Dites-moi, racontez-nous un peu par rapport à cette épopée. C'était plus qu'un président, le président Pavio.
Oui, c'est clair. C'était pratiquement un père pour tous les joueurs qui étaient sur le Léo Pavio. Parce qu'il était toujours à l'écoute, il était toujours au téléphone avec les joueurs. Pour aider ses joueurs, il aimait beaucoup ses joueurs. Donc ça a été un père pour tout le monde, hein, pratiquement. Donc c'est vrai que c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris la nouvelle. Mais bon, on ne sait pas maintenant les funérailles, ce sera fait assister en métropole ou en Martinique, mais ce serait bien de le faire ici parce que je pense qu'il mérite ce truc pour qu'on puisse vraiment lui porter une grosse attention et une grosse et hommage.
C'est vrai qu'il y a, s'il faut parler de lui, il y a tellement de choses à dire. Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires entre le président, j'ai envie de dire, et ses enfants.
Oui, je me rappelle le jour qu'on a joué au Parc des Princes. Le tournoi des Dom-Tom, on avait gagné le vieux Sinamari de Jean-Claude d'Ancheville. Et je pense que je me rappelle à la mi-temps, on était à 0-0. Et Camille est venu et il a triplé la prime. Donc la prime était passée à 1 000 euros par jour. Dans le temps, ça faisait à peu près 1 000 euros. Donc c'était un président qui savait ce qu'il voulait. Et après, en deuxième mi-temps, on a gagné le match 2-1. Donc bon, c'est pas forcément ça qui nous a fait gagner, mais c'était un président qui savait motiver ses joueurs, qui savait quoi faire pour amener le football martiniquais au plus haut niveau.
Vous me dites c'est parce qu'il a peut-être fait gagner, mais j'ai vécu des moments où en première mi-temps, bon, ça va pas, et puis à la mi-temps vous dites président, bon, qu'est-ce que vous dites, et puis finalement à la deuxième mi-temps, ben c'était réglé, c'était ficelé, et puis à la fin c'était président.
Exactement, c'était exactement ça. C'est vrai que ces moments-là il y avait plus de moyens, mais c'est vrai que le président est pas vieux. N'hésitez pas à mettre les moyens en place pour faire son équipe progresser et arriver le plus possible dans toutes les compétitions. Donc c'est ça que je retiens. Et c'est un président qui va nous manquer parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup pour le football martiniquais et le football franciscain.
Très bien, merci. En tout cas, Dominique Zahir qui a fait partie de cette épopée. Je m'arrête parce qu'il y a un coup franc, comme par hasard, quand il parlait du président pour l'équipe du club franciscain. L'intérieur, pied droit, et le ballon, le portier qui a détourné ce ballon, la première véritable occasion, après 2 minutes seulement, ici, donc, pour l'équipe du club franciscain, intérieur pied droit. Mais c'est Cavallon qui nous a fait ça, mais en tout cas, le portier, donc, Mélien, Gilles Mélien, qui a sorti ce ballon, et ce sera un corner, le premier corner d'ailleurs, et pour cette équipe du club franciscain, corner qui viendra de la gauche du portier Mélien et de la surface de réparation. On a repoussé le ballon, mais pas pour longtemps, parce que le ballon qui va revenir sur côté droit. Les franciscains sont donc montés d'un cran. Vous aurez compris que ça part très fort. Ballon pour Andy César déjà, qui passe à Timon qui en deux fois va trouver un partenaire. Voilà qui est fait. On est dans la surface de réparation. Le ballon sur côté gauche. Ils sont partis très fort. On va se rapprocher dans la foulée aux côtés donc du président Littorier. Vous le savez, il a pris les rênes. Après donc il y a eu d'autres, hein, mais c'est vrai qu'il a pris les rênes avec d'autres titres, mais c'est vrai que ça vous rappelle beaucoup de choses lorsqu'on parle du président Pavio.
Alors là, ça nous rappelle le football, le beau football que bon, ben, il y a longtemps qu'on n'a pas vu. C'est vrai, dans le temps, comme j'ai toujours dit, il y avait le club franciscain et les autres après, mais en tout cas c'était le beau football, c'était le plaisir de voir jouer. Et je vous ai entendu parler avec un ancien joueur qui est Dominique Zahir, qui parlait uniquement de c'est donner quoi, comment ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient donner, qu'est-ce qu'ils pouvaient, comment ils pouvaient motiver ces joueurs. Effectivement, il y avait beaucoup de moyens. En ce moment, maintenant, il n'y a pas autant de moyens, mais nous essayons de faire ce qu'il faut pour évoluer, faire évoluer le football toujours. Mais en tout cas, il n'y avait pas comme le président Pavio, et je ne pense pas qu'il y en aura comme le président Pavio.
Au début, quand vous avez pris les rênes de cette équipe du club franciscain en tant que président, vous avez eu beaucoup de conseils de lui.
Beaucoup de conseils jusqu'à il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine de jours que nous avons parlé. Oui, beaucoup de conseils, ça c'est sûr, et j'ai toujours apprécié ces conseils.
C'est pas ça, ça me rend ouf, je m'habitue à ton...
Que dit l'arbitre? Un pénalty pour le... Ah ouais, il a sifflé pénalty.
Et c'est là, et il faut signaler l'arbitre, c'est un arbitre guadeloupéen.
Alors, l'arbitre c'est monsieur Luigi Manubin. Il nous vient de la Guadeloupe et c'est par son main qui a été trouvé en profondeur. Et puis il a été stoppé. Mais on n'a pas senti le gros choc par rapport à Boulois. Mais l'arbitre, monsieur, donc je vous le disais, Manubin, il est de la Guadeloupe. Il a sifflé le pénalty. Ah ouais, il est déjà au point de pénalty, même si les franciscains ne sont pas d'accord sur le banc également. Mais c'est vrai qu'il y a un pénalty. Alors que il a un peu. C'est comme si c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, Boulois. Il ne comprend pas, mais monsieur, il est impartial, monsieur Manubin, monsieur Luigi Manubin, qui revient de la Guadeloupe en échange hein, avec la Martinique. Pareil que le trio même va peut-être officier aussi du côté de la Guadeloupe. Rappelons quand même que du côté des assistants, David Louis Alexandre et Samuel Newton, on parle du trio du côté de la Guadeloupe, mais on va vivre avec... alors, c'est qui va tirer? C'est Lamazine. Alvin Lamazine face à Boulois. 5 minutes de jeu ici. Le Golden Lion en face de prendre l'avantage. Alors que tout à l'heure, il y a eu ce bon coup franc pour l'équipe du club franciscain. Mais là, c'est au pénalty. C'est pas pareil. C'est plus pareil. Lamazine face à Boulois. Il va s'avancer. Ce sera le pied droit. Il va nous mettre ce ballon. Ouais, côté gauche et ça va au fond. Contre-pied parfait. Donc vous notez, le Golden Lion après 5 minutes de jeu. Prend l'avantage hein, ce penalty d'Alvin Lamazine. Et c'est vrai que les Franciscains souhaitaient, mais c'est pas fini, ça ne fait que commencer, ce n'est que 5 minutes, mais en tout cas ils sont venus hein, pour tenter à la mémoire du président Pavio d'aller chercher cette victoire. On a entendu le président Littorier, on a entendu qui a été joueur également, Dominique Zahir, et puis on va retrouver Fabrice Rupernet, hein, on vous l'avait promis également. Et Fabrice Rupernet qui mène déjà un but à zéro, mais qui a joué aussi au club franciscain. On va l'appeler peut-être pour moi Fabrice Rupernet, puisque on était... Ah ben voilà, Fabrice, voilà, donc qui va se rapprocher. On va essayer de faire ça tranquillement avec lui. 1-0, on rappelle, pour le Golden Lion face au club franciscain. Fabrice, dites-moi, à la mémoire de Camille Fabio, vous avez joué, vous avez fait venir... au club franciscain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire les quelques mots? C'est un père, hein. Je pense que quand je parle des joueurs, c'est un père qui s'en va tellement il y avait ce lien entre le président Pavio et ses joueurs.
Mais je pense que vous avez dit exactement le mot qu'il fallait, c'est-à-dire que c'est un père, il a toujours été très...
Il a fait là, quand même.
Très respectueux par rapport à ses joueurs, et c'est quelqu'un qui aidait énormément ses joueurs, et donc par rapport à ça... J'ai une grosse pensée pour lui, et puis aussi pour sa famille. J'ai joué au ballon avec son fils, Jacques-Olivier Pavio. Et à partir de là, forcément, ce match-là a une saveur tout autre. C'est vrai qu'il y a l'enjeu, mais je pense que d'abord, les pensées vont à Camille Pervio et ensuite, on verra le résultat après.
Ouais, c'est partagé parce que du côté du club franciscain, on me disait, on veut gagner à sa mémoire. Mais comment vous empêchez, vous qui avez été aussi joueur du club franciscain avec Camille Pervio, de vouloir gagner pour lui?
Oui, enfin, pour lui, non, parce que je pense qu'il voudrait
pas qu'on
gagne. Voilà, il voudrait surtout pas qu'on gagne. Il ne voudrait surtout pas qu'on gagne contre le club franciscain, parce qu'il était vraiment franciscain et on sait tout l'amour qu'il avait pour sa commune et aussi pour ce club. Donc à partir de là, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce match-là, je dois le gagner pour lui. Mais c'est vrai que j'ai quand même une pensée depuis l'annonce, j'ai une pensée toute particulière pour ce monsieur, parce que tous ceux qui l'ont connu savent que c'était vraiment un très très grand monsieur.
Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, parce qu'il y a eu tellement de choses entre vous et ce président?
Ben, ce président, c'était... Qu'est-ce qu'on peut raconter? Bon, il n'y a pas forcément des trucs... Il y avait des trucs vraiment personnels où on sentait que, voilà, à part le joueur, il aimait beaucoup aider l'homme. Donc, à partir de là, on avait quand même une certaine communion, on avait quand même un certain respect pour lui et lui aussi pour nous. et qui fait que bon, je crois qu'il aimait tous ses joueurs, hein, donc c'est ce qu'il représentait. C'est pour ça aussi que vous avez des joueurs qui ont fait quasiment toute leur carrière au club franciscain, donc ils avaient du mal à partir parce que une fois que vous arriviez avec Camille Pavillon, ben vous étiez en famille.
Alors dites-moi, c'était des grands moments avec ce club franciscain et Camille Pavillon.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu quand même des grands matchs. Hein. Moi, je suis arrivé dans une épopée aussi où il y avait pas mal de grands joueurs. Donc, à partir de là, voilà, on a vécu pas mal de bonnes choses, je vais dire footballistiquement, mais on a vécu pas mal de bonnes choses aussi hors football. Et ça, ça n'a pas de prix.
Très bien, on vous libère. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il était demandé par notamment Olivier Cospard. Mais en tout cas, on a essayé de faire un petit tour avec vous, Christian.
Oui.
Tout simplement parce qu'il y a un coup franc hein, pour l'équipe du Golden Lion. Et qui sait qui est au sol? Il me semble que c'est par Parsemin qui se fait soigner. Et alors, je le vois dans la surface de réparation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a sifflé l'arbitre Monsieur Manubin de la Guadeloupe. Mais on va attendre pour voir. Mais en tout cas, il est en train de se faire soigner. Et c'était pour ça qu'il y avait l'inquiétude entre Cospard et lui. Et donc, il va donner des conseils. Il va replacer un peu son équipe, Fabrice Repernet. Alors, vous notez qu'ici... Puisqu'on a fait un petit tour, hein, on a une grande pensée pour la famille Pavillon, mais on a une grande pensée à la mémoire, en tout cas, de ce président souriant. Hein, vous savez, je me demande est-ce qu'on pouvait voir quand il avait la pression, tellement il était à l'aise dans ce qu'il faisait. Mais en tout cas, 10 minutes que l'on joue ici à Saint-Joseph, et notez que le Golden Lion, grâce à ce penalty d'Alvin Lamazine, mène le but à 0. Face au club franciscain.
Et bien sûr, la rédaction sportive d'RCI adresse ses condoléances à la famille et au monde sportif franciscain dans son ensemble et particulièrement au club franciscain. Juste un score au deuxième quart-temps en Guadeloupe, au Guimargua chez les femmes. L'éclair mène face à Sinamarie sur le score de 26-17. Retour en Martinique à Louis Achille, Club Colonial New Club. Guillaume Jules, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir chers auditeurs. Le score il est toujours de 0-0 ici entre le club colonial et le new club de Petit-Bourg. Ce sont les clubistes qui semblent vouloir porter justement l'estocade dans cette défense bien regroupée côté petit bourgeois. Un match extrêmement important pour ces derniers qui doivent absolument vaincre les clubistes s'ils veulent sortir de cette délicate zone rouge dans laquelle ils se situent. Les clubistes de leur côté doivent en tout cas faire un résultat pour rester au contact des premiers et surtout maintenir cette quatrième place qui leur vaudra une place pour la Coupe Vive, la prochaine Coupe Vive. Et c'est vrai que le match est pour le moment, après 12 minutes de jouer ici, très très engagé, avec, comme je vous l'ai dit, une équipe du club colonial qui semble vraiment, en tout cas offensivement, retrouver une bonne relation entre le milieu de terrain et les attaquants, ce qui leur a permis par deux ou trois fois de solliciter le portier Dogué du New Club de Petit-Bourg. Et puis côté Petit-Bourgeois, on procède un petit peu en contre-attaque, mais on n'est pas en reste pour le moment, on est bien regroupé derrière, on essaye de bien gérer cette entame de match. Et puis, qui sait, par l'intermédiaire d'un des feux follets que sont Philippe Clerville ou encore Ishua ou Lorenzo Florimont, et bien faire trembler cette défense clubiste. Ce match aujourd'hui, il est plutôt arbitré par monsieur Hervé Oblivé, assisté par messieurs Jean Tézan et Fred Jurier du Fournier. C'est Jean-Charles Séjean qui est le délégué de Ligue préposé ce soir avec une autre situation pour le club colonial. C'est Hendrix Boulois qui avait tenté de récupérer un ballon au devant du portier Dogué, mais qui lui a été plus prompt et a donc pu dégager rapidement son camp. Le score, Christian, il est toujours de 0-0 ici au stade Louis Achille entre le club colonial et le New Club de Petit-Bourg après 13 minutes et 30 secondes de jeu ici.
Et le score il est de 0-0 aussi au Monde Rouge entre le Club Pénin et le Golden Star. On va Petit-Bourg pour ce match pour désigner le champion des champions de R2, Espoir de Sainte-Luce Émulation. Gaël Duciel, bonsoir.
Eh bien bonsoir Christian, vous l'entendez, c'est la fête ici à Petit-Bourg. Est-ce que vous l'entendez?
Ah oui, je l'entends des petits bois.
Donc,
Ting, bling, ting, bling, ping, ping.
Exactement, les tambours lucéens sont bien présents, hein, comme toute la saison d'ailleurs. Est-ce que c'est pour ça que l'espoir est monté? On peut se poser la question. En tout cas, je peux vous dire que les supporters de l'Espoir de Saint-Louis sont bien présents ce soir. Une rencontre qui a démarré depuis un petit peu plus de 16 minutes. Maintenant, le score n'a pas bougé, 0-0. On est un petit peu dans un round d'observation, même s'il y a eu quelques situations intéressantes, notamment du côté de Saint-Louis, hein, avec cette frappe qui passe juste à côté de Nicolas Sevel. Voilà, vraiment clairement une bataille milieu de terrain avec des situations intéressantes. Et c'est vrai que c'est une saison. On a affaire à, on peut dire, c'est vrai qu'on va consacrer le champion, mais vraiment deux belles équipes, parce que dans ces deux groupes de R2, ça n'a pas été facile du tout. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu le dénouement, hein, de ces groupes avec ce classement, c'était très serré, Christian, jusqu'au bout. Hein, on l'a suivi toute la saison. Donc, c'est vrai que ce sont deux équipes qui méritent d'être là ce soir, d'être présentes et de se battre pour être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, champion des champions, puisqu'il y aura un vainqueur ce soir. Mais en tout cas, ces deux équipes sont déjà gagnantes, hein, puisqu'elles vont se retrouver en Régional 1 la saison prochaine. En tout cas, j'espère assister à une belle partie et surtout voir des buts. C'est vrai qu'on a un terrain quand même assez sec à Petit-Bourg. Hein. Il est vraiment très sec, très jaune, hein, Christian. Donc, j'espère que ça ne va pas nous empêcher de voir du beau football, parce que le ballon a un petit peu de mal, on va dire, à circuler, à rouler, on va dire ça comme ça. En tout cas, pour l'heure, Christian, juste le temps pour moi de vous signaler les arbitres de la rencontre, puisque c'est Monsieur Wassouf, Nicolas Wassouf, qui est au centre ce soir, assisté de John David, ainsi que de Cyril Garrido. Voilà pour le trio arbitral. Je regarde un petit peu mon chrono, on joue depuis presque 19 minutes ici à Petit-Bourg, 0-0 entre l'Espoir de Saint-Luce et l'élimination de Chelcher.
Allez, coup de projecteur sur le Guimagua en Guadeloupe, à Bemao. L'éclair mène au deuxième quart-temps sur l'US Sinamari sur le score de 28-18. Retour dans le temple du handball martiniquais au Palais du Sport de Lamantin. Arsenal du Robert Meg, finale de la poule des As. Richard Gouy, bonsoir. Richard Aigui, bonsoir au Palais des Sports du Lamantin, Arsenal, Meg. Allez, on va à Rivière-Salée. Là, on parle aussi finale du championnat avec en play-off, demi-finale, retour en volley-ball, le derby arlésien, Rayon RCA, Dominique Deval et Jean-Philippe Maire, bonsoir.
Oui, bonsoir Christian, bonsoir à tous. Vous arrivez ici alors que le tableau d'affichage annonce, enfin en tout cas, nous offre ce tableau 16-12 en faveur du Rayon de Petite Anse face au RCA. Et donc on va, une fois vous avoir donné le score en ce début de partie, vous dire qu'on est avec Philippe Lirus qui sera notre consultant ce soir. Et évidemment, vous en avez parlé, Philippe Maire qui est là également avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et on va également saluer Philippe Lirus qui est là avec nous et qui va nous accompagner tout au long de cette soirée.
Bonsoir aux auditeurs de RCI Radio Caraïbes International.
Alors Dominique, quelle ambiance? Merci. Là, quelle ambiance
Écoutez, on a un hall des sports qui se remplit doucement, mais déjà avec une très belle ambiance du côté des supporters du Rayon de Petite Anse, parce que vous savez, la suprématie, on la gagne là aussi. Ce sont deux équipes de la commune des Anses d'Arlay, et donc on veut déjà frapper fort du côté de la tribune, et ça, les supporters du Rayon savent le faire. On a un groupe de supporters qui chantent pendant quasiment tout le match et qui accompagnent au tambour également, donc ça fait du bruit et ça encourage forcément sur le terrain, ça galvanise les filles du Rayon de Petite Anse qui pour l'instant ont retenu la leçon, Philippe Lirus, du match aller, parce que à l'aller, on se rappelle qu'elles étaient menées 2-7-0 dans cette première demi-finale, et là on a l'impression qu'elles ont retenu la leçon et qu'elles ont pris les choses par le bon bout.
Tout à fait, c'était un vrai paradoxe, parce que le Rayon, qui est habitué aux compétitions, avait l'air d'être très 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 stressé, très contracté au premier match. Là elles sont beaucoup beaucoup plus sereines, ça se retrouve au score 19-12. Après avoir eu une égalité à 10, elles sont en train de faire le petit bout de chemin. Elles ne se préoccupent que de ce qu'elles ont à faire. Et pour l'instant, elles le font très bien, justement.
Donc voilà, Christian. Tout à l'heure, on entrera, si vous le voulez, un petit peu dans les détails avec Jean-Philippe. On parlera un petit peu des éléments techniques, notamment des possibilités de part et d'autre. On parle évidemment des joueuses, quels sont les atouts d'un côté comme de l'autre, parce qu'on a déjà vu quand même un petit duel assez intéressant entre Mélissa Cyrilia et la jeune Mara Jomari. Et donc ça promet ce soir, parce que quand Mélissa attaque, c'est la jeune Mara Jo qui est parfois
l'égalisation
et l'inverse.
Retour à Saint-Joseph,
on se retrouve tout à l'heure.
Voilà, exactement, retour à Saint-Joseph, Galbert et Mélie, égalisation franciscaine.
Ouais, c'est signé Christophe Jougon, un ballon qui est sorti sur la droite, et puis on a senti que la défense voulait dégager, mais un dégagement raté. Et c'est Jougon qui s'est lancé, qui met ce ballon et qui bat donc Mélien. Vous notez donc qu'après 18 minutes, le club franciscain revient donc à la marque. Un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain. On rappelle le buteur, Christophe Jougon.
Voilà, retour au Lamantin, au Temple du Handball, Arsenal du Robert, Meg au féminin pour la finale de la Poule des As. Au match aller, Richard Aigui, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir également à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, c'est un palais des sports qui a revêti, comme d'habitude, comme pour les grands moments, eh bien, sa tenue de soirée et qui donc accueille, vous l'aviez dit, l'Arsenal du Robert ainsi que Meg chez les femmes, puisqu'on parle de finale de championnat de la Poule des As. Et puis juste après, nous aurons donc le match des hommes opposant pour la première fois le Cop Sport à la formation de Gondo, un habitué de la chose. Eh bien, ça c'est en attendant. Eh bien, la partie a démarré dans une folle ambiance depuis un peu plus de 20 minutes. Et tenez-vous bien, le score est de 8 pour l'Arsenal et 6 pour Meg. Un match qui a démarré sous la houlette des arbitres que sont messieurs Grégoire et Mélène Adam, des arbitres nationaux. Donc, vous avez compris, ce sont des arbitres venus de l'extérieur pour arbitrer les débats.
Pas de réclamation en vue, là.
Ah oui, il peut y en avoir, mais pour l'instant, eh bien, ça semble jouer dans l'esprit. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien, alors que pour la première fois, il y a 2 minutes pour une joueuse de Meg, à savoir Boniali. Alors, avec nous, pour vivre ces moments, ces deux matchs intenses, Virginie Lamant. Virginie, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Christian.
Alors, bonsoir. Une partie qui a démarré, je disais, sur les chapeaux de roue.
Oui, oui, complètement, une partie qui est partie à 200 à l'heure, avec pourtant peu de buts, mais en effet, beaucoup d'arrêts des gardiennes de but, et l'entente qui trouve les montants depuis un petit moment et qui a du mal à accéder au but.
Et à ce petit jeu, eh bien, souvent on l'a vu en demi, on l'a vu en quart. C'est vrai que l'entente se montre, c'est une équipe se montre particulièrement maladroite, j'ai envie de dire, dans les duels, et cela lui a coûté, il lui a valu déjà quand même quelques belles remontées de l'équipe adverse ou des défaites.
Oui, exactement, parce qu'on doit être au moins à 5 ou 6 tirs seuls face à la gardienne qui ont été ratés. Et derrière, face à l'Arsenal, ça se paye cher, puisqu'elles enchaînent directement sur le grand espace. Et malgré ça, voilà, on voit Laurent Germani qui réduit le score à la 22e minute. Et donc on en est à 7 pour l'entente, 8 pour l'Arsenal.
Alors pour conclure, je vous dirai que nous avons eu droit cette année à 4 confrontations entre ces deux formations. Alors ces différentes confrontations ont donné 2 victoires pour l'Arsenal et 2 victoires également pour Meg. Autrement dit, on est à égalité. Ça veut dire qu'il y a eu un nivellement quelque part où les équipes se sont rapprochées un peu de l'Arsenal, puisqu'il n'y a plus les scores fleuves de 10 buts d'écart entre ces équipes. À votre avis, y a-t-il véritablement eu un nivellement, surtout avec le rivet sportif et Meg?
Oui, oui, complètement. Cette année, on a vraiment vu ces 3 équipes, l'Arsenal, le Réveil et l'entendement des Esgoloises, qui pouvaient se gagner l'une comme l'autre. Donc il y avait une vraie incertitude sur l'issue de cette Poule des As, contrairement aux 2 dernières années où l'Arsenal dominait très largement ce championnat.
Donc voilà Christian, alors que nous sommes à moins de 7 minutes maintenant de la fin de ce premier temps, le score est de 9 pour l'Arsenal, 7 pour Meg. Les deux équipes évoluent en infériorité numérique.
Et au Gouim,
si vous voulez, sont à égalité au niveau numérique.
Voilà, et au Gouim Agua, entendez par là, le tournoi anti-guyane de basket au féminin. Eh bien, l'éclair mène 30 à 25 face à l'US Sinamari. Retour à Saint-Joseph et on parle de la 24e journée du championnat de R1. Un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain. Nous sommes Guy Albert et Mehdi au cours des 25 premières minutes de jeu.
Alors, moi, j'ai 23 minutes. On se rapproche des 25. Et donc, le score, il est de un but partout. On a deux équipes qui en veulent. Ça, il y a beaucoup de maîtrise d'ailleurs dans le jeu. Là, l'occasion pour l'équipe du club franciscain, mais la maîtrise en défense pour l'équipe du Golden Lion où on a récupéré le ballon dans la gauche et on va passer vers la droite. Attention à ce long ballon. Mais l'assistant, monsieur Newton, a levé le drapeau et ce sera au bénéfice de l'équipe du club franciscain. Pour le soir, on essaie d'avoir beaucoup plus de maîtrise. On sent que la vitesse doucement, on est en train de le mettre, mais c'est en tout cas la précision dans les passes, orienter le ballon, utiliser, j'ai envie de dire, la largeur du terrain pour un peu écarter un peu ce marquage, notamment au milieu du terrain. Les Franciscains qui ont récupéré le ballon avec Jougon qui a écarté ce ballon sur le côté droit. Il a trouvé l'un de ses partenaires. Mais c'est pas Poloba qui est là, mais on va faire quoi? Il va revenir. Non, il revient pas. Il a été contré. Contre favorable pour l'équipe du club franciscain. Et attention à ce ballon de la surface de réparation. La reprise, mais qui passe donc de Lepel, me semble-t-il, qui était monté, mais qui passe à côté. Il y a déjà eu des velléités offensives du club franciscain où on n'a pas cadré. Mais c'est vrai qu'on sent que dans la récupération, comme là, tout à l'heure, c'était lui qui avait le ballon. Il s'agit d'un Jonteuil.
Le stade lui Achille pour l'ouverture du score du club colonial. Et c'est Hendrix Boulois qui, d'une magnifique reprise de volet, un ballon venu de la droite, il a repris ce ballon en première intention. Et le ballon va se loger dans le petit filet droit des buts gardés par Donald Doguet, ce qui permet désormais à cette équipe du club colonial de mener 1-0 face au New Club de Petit-Bourg après 25 minutes de jouer. Ici à l'UHL.
Retour à Saint-Joseph avec vous, Guy Albert
et
Mehdi.
Et les Franciscains qui étaient encore à l'attaque sur ce côté gauche. La faute sur Johnny Marajo à deux vitesses qu'il allait prendre l'ascendant sur le latéral droit. Et c'est tout près de la surface de réparation. C'est côté droit. On joue la 25e minute. On rappelle un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain. C'est Alvin Lamazine à la 5e minute qui avait donc ouvert le score sur penalty. Et Christophe Jougon qui a égalisé pour l'équipe du club franciscain à la 18e minute. Et là, nous jouons la 25e dont vous parliez tout à l'heure. On a dépassé hein, quand même de quelques secondes. Et c'est vrai qu'il y a un très bon public, on va dire, pour assister à cette rencontre. Parce que on a vu beaucoup de monde dans la tribune, mais sur le côté, on va dire gauche, puisqu'on regarde le terrain sur notre gauche. Il y a aussi beaucoup de spectateurs derrière le grillage, donc ça fait beaucoup de monde ici pour cette rencontre entre le Golden Lion et le club franciscain. Jougon et aussi Cavalan pour ce coup franc, le pied gauche si c'est Cavalan et le pied droit si c'est Jougon. Ce sera peut-être le pied droit pour contourner le mur de la gauche et aller chercher le côté opposé parce que l'angle sera plus fermé pour Cavalan. Ce sera lui et ça sera au niveau de la barre transversale, ça a flirté avec l'extérieur de la barre transversale et ça va sortir. Donc c'est Yann Dumont hein, qui nous a fait ça. Pourquoi j'ai dit Jougon tout à l'heure? Il me semble que c'est Yann Dumont hein, qui a... Parce que Jougon, il est là. C'est Dumont qui nous a fait ce pied droit, l'intérieur du pied droit brossé. J'aurais dû y penser parce que c'est lui hein, quand il s'agit d'un coup de pied arrêté à cette distance. On sait qu'il est à droite. Et donc il a tenté mais ça passe à côté. Les Franciscains qui vont récupérer à l'entrée avec Cavalan. Cavalan à l'entrée de la surface de réparation côté droit va pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Ouh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui nous a fait ça? Parce que il avait le but en face. Il met le ballon à droite. Et c'est Lepel qui nous a fait ça. Eh ben dis donc, ça a été une grosse occasion encore pour l'équipe du club franciscain. Ils ont du mal hein, quand même à sortir de leur base les Joséphins. Et là on va peut-être passer par le milieu du terrain. Voilà qui est fait calmement. On va passer oui. Donc par Boyol. Il va se retrouver au sol. Il y a une faute. 27 minutes en première mi-temps. Un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain.
Et le club franciscain qui, au classement général, compte 76 points. Deuxième, le Golden Lion, 71 points. Troisième, la Samaritaine, 70 points. Quatrième, le club colonial, 68 points. Cinquième, le club pélin, 61 points. L'Aiglon est sixième avec le même nombre de points. Septième, le RC Saint-Joseph, 59 points. Huitième, le Golden Star, 57 points. Neuvième, le CS Casse-Pilote, 50 points. L'US Diamantinoise est dixième, 44 points. Onzième, l'US Rivouenne, 42 points. Douzième, le New Club de Petit-Bourg, 40 points. Et 13e, le Stade Spiritain avec 35 points. Et l'antenne rouge, le CS Vauclinois. Retour à Louis Achille. Le score, il est ouvert entre le club colonial et le New Club de Petit-Bourg, Guillaume Jules.
Oui, on approche de la demi-heure. Il est toujours au bénéfice de cette équipe du club colonial qui continue en tout cas à poser le pied sur le ballon, notamment par l'intermédiaire de Boulois qui est en possession d'ailleurs de cette balle. Il est sur le flanc gauche de l'attaque clubiste, mais le ballon va lui échapper et va sortir malheureusement. Mais c'est vrai que cette équipe du club colonial pour le moment montre un beau visage avec notamment Debs, Johan Debs à la baguette au milieu du terrain. C'est vrai que pour le moment, on voit en tout cas du bon football, même si les petits bourgeois avec leurs moyens essayent, je l'ai dit, déjà de posséder en contre. Alors pour le moment, Philippe Clerville, le fer de lance de cette attaque petit bourgeoise, n'a pas encore obtenu un ballon négociable de manière à créer un véritable danger. Mais c'est vrai que pour le moment, par ses courses, il perturbe quelque peu notamment la tranquillité d'un garçon comme Morgeon qui a été déjà par deux fois bousculé par cet attaquant petit bourgeois. D'ailleurs, ils sont en duel au moment où je vous parle. Retenez en tout cas que le score, il est toujours au bénéfice du club colonial qui mène depuis la 25e minute 1-0 face au New Club de Petit-Bourg, pardon, une réalisation d'Hendrix Boulois.
À Petit-Bourg, on joue pour le titre de champion de R2 Gael du Ciel, espoir, émulation.
Eh bien, 33 minutes, Christian. Pour l'instant, nous n'avons pas encore ce champion parce que le score est de 0-0. Mais c'est vrai que les duels sont quand même très disputés. Hein, d'ailleurs, à l'image de ce tacle pas très joli, c'est vrai, de Jemaël Gustan qui prend d'ailleurs un carton jaune. Il a fait un tacle assez appuyé sur son homologue qui porte le même numéro d'ailleurs, c'est Johan comme Corneille. Heureusement, plus de peur que de mal, même s'il est resté à terre quelques minutes. Donc, on a recommencé à jouer. C'est vrai que on va dire que l'espoir de Sainte-Luce a quand même les situations les plus intéressantes, notamment avec un petit peu plus le monopole du ballon. Et du côté de l'émulation de Schellcher, c'est vrai qu'un petit peu plus de difficulté parce qu'elle joue quand même assez bas. Mais par contre, lorsqu'elle se projette, il y a quand même des situations plus qu'intéressantes. On a vu d'ailleurs en début de partie cette tête décroisée, un peu piquée d'ailleurs, de Jordan Michalon, malheureusement, qui manque un petit peu de puissance puisqu'elle a filé directement dans les bras du gardien lucéen. Mais c'est vrai, voilà, une équipe Schellcher qui attend un petit peu, on a l'impression, et puis qui se projette rapidement pour essayer de se montrer dangereux. En tout cas, pour l'heure, ça ne paye pas des deux côtés puisque le score est toujours 2-0-0. Et nous, il reste encore à peu près 10 minutes, Christian, dans ce temps réglementaire. Nous sommes dans la première période 0-0 entre l'espoir de Sainte-Luce et l'émulation.
Et au tournoi anti-Guyane de basket en Guadeloupe, au gymnase Valère Lamy, l'Éclair mène 37-31 face à l'US Sinamari. Retour avec cette équipe de l'Éclair dans son hall à Rivière-Salée pour parler de volleyball avec vous, Dominique Deval. Nous sommes en demi-finale, retour avec ce derby au féminin, rayon RCA.
Oui, Christian, vous revenez alors que le premier set s'est achevé il y a de cela quelques minutes, et je peux vous dire que ça a été vite parce qu'il n'a fallu que 23 minutes à cette équipe du rayon pour l'emporter 25-16. Et on est déjà parti pour ce deuxième set dans lequel il y a une égalité parfaite. Alors pour résumer un petit peu le premier set, on a vu une équipe du rayon, on l'a dit tout à l'heure, hein, qui s'est bien souvenue des nombreuses erreurs qu'elles avaient commises lors du premier match. Et elles ont attaqué tambour battant avec une très bonne réception. Et puis ce soir, on a Philippe Lirus, une passeuse du côté du rayon qui fait le boulot. Il s'agit de Ocan Béatrice qui a l'air bien dans son match pour l'instant, qui a bien servi ses coéquipières. Et puis c'est vrai qu'à la réception aussi, le rayon pour l'instant a été au rendez-vous, à l'inverse du RCA qui a commis de nombreuses fautes. Et qu'on regarde le temps qu'il a fallu, c'est vrai que les fautes du RCA ont servi au rayon.
Tout à fait, tout à fait. Là, on remarque clairement que Serge Lebel, l'entraîneur du rayon, a vraiment mis les choses au point, a corrigé toutes les erreurs du match aller, et elles sont rentrées dans un match vraiment sereine. Ensuite, Il y a effectivement Béatrice, bon, qu'on retrouve, on la connaît très bien. Elle a eu beaucoup, beaucoup de fautes au match aller. Là, ce n'est pas le cas du tout. Elle a été aidée par ça, par le super service d'organisation en réception des filles du rayon qui lui facilite la tâche. Mais là, elle est vraiment sereine et elle travaille vraiment à mettre ses attaquantes, d'une part, en évidence, mais aussi à trouver des solutions quand les réceptions, les défenses ne sont pas propres. Elle arrive à corriger aussi et là, ça donne vraiment une marge. Elles sont vraiment aidées par le nombre de fautes des filles du RCA. Les filles du rayon font des fautes.
Et pour finir, Philippe, on peut dire que du côté du RCA, il y a effectivement pour l'instant une non-maîtrise un petit peu de la chose. Mais il est vrai que la fois dernière, il y a la jeune Marajo Marie qui avait été la locomotive de cette équipe du RCA.
Ah, c'était la locomotive, c'était le poumon, c'était tout à la fois. Ce soir, elle est un peu pratiquement sous le stress. Elle fait beaucoup plus de fautes que d'habitude et elle n'inspire pas la confiance qu'elle avait au match aller pour emmener tout le monde. Là, c'est vrai qu'il manque ça, elle déjà, mais les autres filles ne sont pas là non plus pour remonter le moral ou le niveau du RCA qui n'est pas vraiment à la hauteur ce soir, effectivement.
En tout cas, c'est pour l'instant, Christian, vous notez que le rayon mène 7-6. Et on est dans le deuxième set.
Allez, au Lamantin pour Arsenal du Robert Meg. Nous sommes dans la finale aller de la poule des As de handball, Richard.
Eh bien, Christian, pour revenir à la mi-temps. Une mi-temps qui survient avec un avantage, certes, de 6 buts d'avance pour cette formation de l'Arsenal face à Meg. Une autre Meg qui a raté énormément de buts. Simplement, beaucoup de duels perdus face à la gardienne. Des fois, ça manque un petit peu d'agressivité, ça manque un petit peu de lucidité devant les buts. Alors que de l'autre côté, eh bien, c'est plutôt la gardienne de Meg qui a brillé à certains moments. Mais il n'en demeure pas moins que les joueurs de l'Arsenal ont réussi donc à quand même passer par 6 buts à cette formation à la mi-temps. Un score qui se justifie en dépit des situations créées par Meg. Mais il y a encore du travail à faire du côté Meg, car on voit quand même que ça manque véritablement de tranchant. Des fois, ça manque même un peu d'imagination et on semble s'affoler sur certaines situations. Alors que là, il y a une meilleure maîtrise collective du côté donc de l'Arsenal. Je dirais tout simplement à la mi-temps que ce score paraît donc logique, 14-9 pour l'Arsenal face à l'entente Meg.
Le tour des stades en football à Saint-Joseph, Golden Lion, Club Franciscain, Guillaume-Émile.
Plus que 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Un but partout entre les deux équipes.
À Louis Achille, Club Colonial, New Club, Guillaume Jules.
36e minute, 1-0 pour le Club Colonial face au New Club.
Et le score, il est de 0-0 au Mono Rouge entre le Club Péléen et le Golden Sarah. Petitbourg, Espoir, Émulation, Gaël Duciel.
Après 39 minutes de jeu, 0-0.
Au Hall de Rivière-Salée en volleyball, demi-finale, retour de la poule des As, Dominique Deval.
On joue le deuxième set de cette demi-finale retour et le rayon mène 1-7-0 et 9-6 dans le deuxième set.
Il est 20h42 à la pendule d'RCI.
On est tous handballeurs. La Ligue de handball et la collectivité territoriale vous invitent à assister au final de la Poule des As 2024, les 3 et 4 mai, au Palais des Sports du Lamantin. Vendredi 3 mai à 20h, au féminin, Entente AS Mondésès Gauloise, Arsenal du Robert. Au masculin, Étoile de Gondo, Club Sport de Saint-Joseph. Samedi 4 mai, 18h30, au féminin, Arsenal du Robert, Entente AS Mondésès Gauloise. Au masculin, Club Sport de Saint-Joseph, Étoile de Gondo. Billets en vente sur Data Caraïbes et dans tous vos magasins Intersport. Infoline 0696 61 79 29. La fête l'accueille belle. Vini handball et cosotte. Gagnez des billets d'avion avec RCI et Air Caraïbes. Deux tirages au sort vendredi et deux le samedi à la mi-temps des matchs. Un événement Ligue de handball, collectivité territoriale de Martinique et RCI. Secret Paradise Events vous présente la nuit Compa Paradise. Le 7 mai à l'espace Reprise de 20h à 3h du matin. Un show live exceptionnel avec Créolla, Rudy Rootboy et Felicia Ross. Animation DJ Sketty et DJ Flo de Paris. La nuit Compa Paradise à l'espace Reprise de Rivière-Salée. Prévente sur Bizouk et point de vente habituel. Infoline 0767 980 454.
fraîchement nommé par l'Académie de Jazz, lauréat du prix Django Reinhardt, Grégory Privat sera en Martinique le 30 mai 2024 pour un concert intimiste au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire à 20h dans le cadre de sa tournée Phoenix Tour, accompagné de Thilo Berthelot à la batterie et Chris Jennings à la contrebasse. Grégory Privat, en concert unique en Martinique. Un concert proposé par GC Productions, France Antilles et Aluego. Un événement RCI. Studio Sport sur RCI. Christian Boutrin.
Et au Mont Rouge, le score est ouvert puisque le Golden Star mène 1-0 face au club péléen en Guadeloupe. Eh bien, l'IS Sinamari est revenu au troisième quart-temps. L'US Sinamari mène face à l'Éclair de Rivers-Salé 39-7 dans le cadre du tournoi Antilles-Guyane. Je vous ai dit que c'est une émission en hommage à Camille Pavio, l'ancien président du club franciscain, décédé ce matin des suites d'une longue maladie, et à la direction du club, son vice-président Gaëtan Bascou, qui deviendra ensuite le président par intérim, nous a confié son témoignage. Gaëtan Bascou.
C'est avec tristesse que j'ai appris la nouvelle. Camille, c'est un homme ferme, un visionnaire du football martiniquais. Il a beaucoup fait pour le club franciscain depuis son arrivée au club. Donc, s'il a voulu faire en sorte que le football progresse, et le football ne pouvait progresser selon lui que par l'élite. Donc il a tout fait pour faire en sorte que le club franciscain devienne une équipe d'élite et brille de par sa renommée.
Et vous qui l'avez côtoyé, qui avez travaillé avec lui, lorsque vous échangez, quelle est quand il prenait la saison avant une saison, quelle est la philosophie qu'il avait de son équipe pour l'année suivante?
Ah ben, d'abord, c'est quelqu'un qui discutait beaucoup avec les entraîneurs. Il recueillait l'avis de joueurs cadres et à partir de là se forgeait l'équipe de l'année suivante. Son objectif était toujours de rester au haut niveau du tableau et faire en sorte que le football martiniquais, je dis bien le football martiniquais, y compris le football franciscain, soit de renommée et à la hauteur de ses ambitions. Le président Pavio, c'était quelqu'un qui était très vu, très bien vu au niveau de la Fédération française de football. Il avait les portes ouvertes, et c'est comme s'il était chez lui. Et j'étais même étonné. En fin de compte, je crois qu'on a reconnu en lui un homme, un visionnaire, comme je disais tout à l'heure, un homme qui a l'amour du football et qui faisait beaucoup pour l'évolution du football, aussi bien franciscain que martiniquais.
En tenant compte aussi de la situation sociale de ces joueurs.
Oui, bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué à ce sujet. Hein. Bon, mais je crois que toujours pareil, hein, il motivait ses joueurs. Il les motivait parce qu'effectivement, il tenait compte de leur situation sociale de chacun. Il avait le cœur dans la main. Hein. Il faisait en sorte que bon, ces joueurs qui donnaient beaucoup au club, soient récompensés en conséquence.
Voilà, Gaëtan Bascou, le témoignage de Gaëtan Bascou, le vice-président de Camille Pavio, qui fut par la suite président par intérim. Retour sur le terrain à Saint-Joseph, justement, Golden Lion, club franciscain, Guy Albert Emily.
On est à 5 minutes, un peu moins, hein, un peu moins de 4 minutes de la mi-temps. Un but partout entre les deux équipes, il y a des faits. Hein. Ah oui, des gens qui touchés dans la surface de réparation, les Joséphins ont demandé pénalty tout à l'heure. Les Franciscains ont demandé une petite main dans la surface. Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver le cadre. Il y a eu des frappes tout à l'heure. Ça a été dans les bras donc de Mélien. Mais en tout cas, pour l'instant, ça passe. Attention, Boyel encore, qui va récupérer le ballon. Que va-t-il faire? Il a parsemé, mais il y a aussi sur le côté gauche au partenaire. Mais ça va passer à côté. Ah, il a mal joué Thierry Catherine. Il a voulu un peu peut-être déposer ce ballon dans la surface de 5m50. Mais ça passe à côté. Je ne vous ai pas dit au début. Hein. Il y a une superbe ambiance, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde, je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit aussi. Et que les Joséphins m'excusent, mais c'est vrai que c'est la fête ici à Saint-Joseph. Et je peux vous dire qu'en arrivant, il a fallu faire 3 tours hein, pour trouver une petite place. Parce que Saint-Joseph fait.
Comment Laurence Honoré ne vous a pas laissé rentrer dans l'enceinte du stade?
Alors le pire, c'est que quand j'arrive, il me dit, comment on vous a pas laissé rentrer, monsieur Méli? Ah ben bravo. Bravo, M. Saint-Honoré. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis, on a bien resserré un peu les choses. Il y avait des petites places, hein. J'en ai trouvé une petite quand même. Et puis, mais il a fallu marcher, mais c'est pas grave. On savait, hein, parce qu'ils l'ont annoncé, qu'il y avait la fête ici. Ah, il y a du monde, un côté culturel au début qu'on a pu apprécier quand on est arrivé. Et puis, un beau podium, puisque on parle de hall ce soir en sport. Ah ben, ce hall est la place devant, qui donc est en fait ici à Saint-Joseph. Mais attention, le ballon part sur main. Il s'est fait contrer. Il s'est fait contrer par Ago. Mais le long ballon, ben, ça sera pour Mélien. 2 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Attention, qu'est-ce qu'il fait, Norel? Mais il a pu récupérer le ballon, qui a pu trouver Catherine. Catherine qui s'est retournée. On va peut-être garder, parce qu'il y a en profondeur pour Montréal. Ah, il se fait contrer à la limite de la faute. D'ailleurs, par sommet, il a demandé la faute, mais il l'a pas, il a touché le ballon. Le ballon qui va passer avec Ponoma. Ponoma, ça va répondre. Les Franciscains vont répondre. Oh, le tacle extraordinaire là aussi de Saint-Gama. Il a touché le ballon. Ah, c'est des gestes précis. C'est des gestes purs. Mais en tout cas, pas de faute. Attention, Yann Thibault qui récupère le ballon, mais il y avait une petite faute juste avant sur Thierry Catherine, me semble-t-il. Et ce sera au bénéfice du Golden Lion. Bientôt 1 minute à jouer dans le temps réglementaire dans cette première oui. mi-temps. Le public en a, hein, parce qu'on voit le public des deux côtés. On se lève parce qu'il y a des gestes techniques, il y a de la vitesse, des orientations qui changent. Oui. C'est magnifique pour le 100 buts partout entre les deux équipes à 1 minute de la fête pour la première mi-temps.
Et on approche de la mi-temps aussi à Louis Achille, Club Colonial, New Club, Guillaume Jules.
Oui, Christian, toujours 1-0 au bénéfice du Club Colonial avec un ballon pour les petits bourgeois, mais qui sera récupéré plutôt par le portier Vermignon. Le score, il est toujours de 1-0 au bénéfice du Club Colonial. Alors, un fait insolite que je ne vais pas me priver de vous raconter.
Allez-y, mon cher.
Alors, est-ce que vous connaissez Brice Davidas?
Oui, ça me dit quelque chose.
Alors, Brice Davidas, c'est un des acolytes de Charles Bonnex, qui s'est toujours déplacé avec lui.
Ah oui, monsieur Olivier, oui.
L'arbitre, il libère les 22 acteurs. Donc, mi-temps ici au stade du Achille, 1-0, je le rappelle, pour le Club Colonial face au New Club. Et Brice Davidas, donc, il est donc soigneur du Club Colonial. Il est assis sur le banc du Club Colonial, mais il est aussi soigneur du New Club de Petitbourg.
Ah bon?
Et quand le Club Colonial joue le vendredi soir, eh bien le samedi après-midi, il est sur le banc du New Club. Et donc ce soir, il est sur le banc du Club Colonial, mais il soigne des deux côtés.
Ah, je croyais qu'il avait pris une petite, vous savez, les petits bancs, les petites chaises de camping, et puis c'était mis au milieu.
Il est resté à côté de son compère Charles Bonnex, mais il s'occupe très bien de ses joueurs du New Club de Petitbourg.
Eh ben voilà, c'est ce qui est bien, il faut le souligner. À Petitbourg, espoir, émulation justement, Gaël, c'est la mi-temps?
Exactement, Christian, c'est la mi-temps depuis quelques minutes maintenant, bientôt 5 d'ailleurs. Toujours 0-0 entre ces deux formations. Je disais tout à l'heure, nous n'avons pas encore le champion de R2. C'est vrai que les ballons sont très disputés et il y a des situations, hein, clairement, des situations intéressantes. Maintenant, c'est vrai que les gardiens font le job ce soir des deux côtés, les défenseurs également. Donc, ça mérite peut-être un petit peu plus d'allant offensivement pour, voilà, il y a des situations certes, mais pour avoir des occasions et se montrer un petit peu plus dangereux pour l'une équipe comme pour l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Mais pour l'heure, Christian, c'est la mi-temps, je vous l'ai dit, 0-0.
Et je rappelle qu'au Mont Rouge, que le Golden Star mène face au Club Pélin sur le score de 1-0. En Guadeloupe, dans le cadre du Guimangois, eh bien, ce sont les joueuses de Sinamari qui mènent dans le dernier quart-temps face à l'Éclair sur le score de 43-41. On va au Lamantin, c'est reparti pour Arsenal du Robert Meg, Richard Egui.
Eh oui, c'est reparti depuis un peu plus de 4 minutes, hein, pratiquement 5. Le score est de 12 pour l'Entente, mais 16 pour l'Arsenal, car l'Entente qui a donc réduit la marque de but, puisqu'à la mi-temps, je vous rappelle que le score était de 14-9. Attention, peut-être une nouvelle attaque là de l'Arsenal, mais qui échoue avec une contre-attaque pour l'Entente, avec Rosalie qui arrive à placer cette balle en rebond. Et cela fait du coup 13 pour l'Entente, mais 16 pour l'Arsenal, Virginie.
Oui, en effet, l'Entente qui a vécu une fin de première mi-temps un peu difficile, qui a vu l'Arsenal prendre le large. Et depuis la reprise, on voit une équipe de l'Entente un peu plus solide défensivement, qui arrive à récupérer les ballons, qui en perd aussi beaucoup moins en attaque, puisque c'est ce qui avait fait le gros défaut de cette fin de première mi-temps. Et donc un match qui se rééquilibre un petit peu tant dans le jeu que sur le résultat.
Et oui, avec peut-être cette attaque de l'Arsenal qui va se conclure avec ce tir d'Aline qui passe à côté du montant droit gauche des buts gardés par Guyette, qui est accrédité tout de même de bons matchs, même si elle a encaissé 16 buts.
Oui, oui, en effet, l'occasion était belle. Un peu de précipitation peut-être, puisqu'elles avaient encore le temps. Les arbitres ne lèvent pas très rapidement la main, donc elles avaient le temps d'aller de rajouter une ou deux passes pour trouver une solution un peu plus évidente. Mais en effet, une belle rentrée de ces deux équipes. Pas beaucoup de buts. On n'est pas habitué à des scores aussi petits. Oh là là, elle a une très très grosse faute.
Et oui, et ça va encore générer 2 minutes, puisque juste avant cela, certainement il y aura 2 minutes. Le temps que messieurs Mélène, et peut-être plus que 2 minutes d'ailleurs, mais le temps que messieurs Mélène et Grégoire Adam. Donc voilà, donc 2 minutes, c'est décidé. L'Arsenal qui va évoluer en infériorité numérique. Et le score, je vous le rappelle, 16 pour l'Arsenal, 13 pour l'Entente, mais l'Entente qui va... non, ce ne sera pas un géo 7 mètres, un géo 9 mètres.
Oui, alors ça va devenir compliqué pour l'Arsenal, puisque Tell, qui est quand même l'une des pièces maîtresses de cette équipe, a 2 fois 2 minutes. Et on a vu les arbitres se concerter, qui hésitaient entre 2 minutes et le carton rouge direct. Donc ça veut dire que Tell risque de ne plus défendre sur ses 24 dernières minutes. Et ça peut être l'occasion pour l'Entente qui revient à 2 buts maintenant, avec un but de Laurent Germani qui a bien redémarré cette seconde période et qui porte à bout de bras cette équipe de l'Entente.
Eh bien Christian, voilà donc après un peu plus de 6 minutes, pratiquement 7 minutes de jouer ici au Palais des Sports du Lamantin, Arsenal qui mène 16 à 14 face à l'Entente Mègre.
Et avant de s'en arriver à Salé, en Guadeloupe, l'US Sinamari mène 43 à 41 face à l'éclair de Rivière-Salée à Saint-Joseph. C'est la mi-temps, mon cher Galbert Emily.
Oui, c'est la mi-temps ici à Saint-Joseph. D'ailleurs, une mi-temps qui arrive avec une superbe grosse occasion pour l'équipe du club franciscain. C'est le bis répétita d'un coup franc. Je vous parlais de Yann Timon. Et puis, il y avait aussi Cavallon. Alors, vous savez, les deux. Alors, Timon va vérifier si son ballon est bien placé, mais Cavallon aussi. C'est normal, il faut pas montrer qui va frapper. Mais ça a été le pied droit de Timon. Et puis, c'est un joueur du Golden Lion qui a contré ce ballon. Il a failli tromper Mélien, le ballon qui va heurter la base du montant, donc gauche de ce gardien. Mais en tout cas, ça s'arrête là. Un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain à la mi-temps ici.
Ouais, direction Rivière-Salée, le Palais des Sports, volleyball demi-finale, retour des playoffs, Dominique Deval.
Écoutez, ce sont les supporters du Rayon qui jubilent pour l'instant, puisque c'est 2-7 à 0 en faveur du Rayon de Petit-Anse face au Real CIA, 25-10 dans le deuxième, 21 minutes, autrement dit, ça défile ici. On a une équipe du RCA, Jean-Philippe, qui pour l'instant, elle n'arrive pas à rentrer dans ce match et les erreurs continuent à s'accumuler.
Effectivement, hein, le RCA multiplie les erreurs, même sur les centres, sur les contres, les prises de balles, il y a vraiment des erreurs. Et puis, le Rayon profite justement et est très proche de sa ligne. Ils profitent des contres également et ils montrent clairement leur supériorité sur ce match, Dominique.
Ben écoutez, vous avez tout à fait raison, Jean-Philippe. On l'a vu, hein, on pensait qu'il y aurait eu une réaction de ces filles du Rayon, mais Philippe Lurus, on a l'impression que sur le banc, c'est un peu attentiste également. Les entraîneurs n'ont pas pris, me semble-t-il, les temps morts quand il fallait pour rebooster un petit peu l'équipe. On a l'impression que sur le banc, déjà, on a abdiqué.
C'est vraiment l'impression qu'on a. Que tout le monde a pris l'eau, tout le monde a pris le bouillon, qu'ils sont en train de se noyer. Et que bon, à qui mieux, on ne voit personne pour le moment qui ait ne serait-ce qu'un geste ou une mimique ou une intention de changer quelque chose. Ils sont vraiment sous l'eau. J'espère que ça va leur permettre de repartir de plus belle au troisième set. Pour l'instant, c'est vraiment le naufrage, effectivement.
Et on va rester prudent, Christian, parce que la semaine dernière, au même instant, le RCA menait 2-7 à 0. Et puis, vous savez, c'est du sport. Au sport,
rien. Ouais, effectivement, ça tient dans les pays, puis il y a eu cette bonne réaction.
Ça s'est terminé, je ne sais pas si c'est ce que vous disiez, Christian, mais ça s'est terminé
exactement
par la victoire du Rayon 3-7-2. Donc on va tranquillement attendre la fin de ce troisième set, voir qui en sort. Et évidemment, si c'est le Rayon sera qualifié pour cette finale en attendant son adversaire. Si c'est le RCA, on ira certainement peut-être plus loin, peut-être dimanche. On verra tout à l'heure, on se dit à tout à l'heure. 2-7-0 pour le Rayon.
Retour à la montée avec vous, mon cher Richard. Arsenal, Meg, deuxième mi-temps extrêmement disputé.
Extrêmement disputé, c'est le cas de le dire. Après 9 minutes dans ce second temps, avec un tir forcé là de Bungo, malheureusement. Solène Bungo qui va donc voir sa balle légèrement déviée par la gardienne Gouillette, accréditée d'un très bon match, je vous l'ai dit. Le score, 16 pour l'Arsenal, 15 pour l'Entente. Un match très serré, on est revenu du côté de l'Entente.
Oui, oui, l'Entente qui, en ce début de deuxième, mène 7-1, puisqu'elle perdait 14-9 à la mi-temps. Et donc l'Arsenal qui n'arrive plus du tout à trouver le chemin du but. Et l'Entente qui perdait les ballons en première mi-temps, qui ne les perd plus, et derrière qui est de plus en plus efficace en attaque. Et c'est ce qui fait qu'elles sont revenues et qu'elles ont là cette fois la balle d'égalisation dans les mains à la 10e minute.
Et oui, l'Entente qui est dans un temps fort, qui est à l'attaque avec Ezan Bongo, qui a sollicité Madli Adelanid. On est